dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
Le dimanche matin, je vais diffuser l'humanité. Mais le soir du vendredi, je vais au golfe de Rouault faire du rock'n'roll. Je pense qu'il y a un inconscient racial sur la drépanocytose. Et que si cette maladie, elle était contagieuse, on courrait tous les laboratoires en Occident. Nous sommes dans une période qui est assez proche de la fin du 18e ou début du 19e, où on a inventé un nouveau type de cheminement humain pour l'émancipation. Mais il n'est pas né. On n'a pas les outils de la transformation sociale du monde en ce moment. Ils ont été ils sont obsolètes, ou ils ne se sont avérés inefficaces. Moi j'ai cru au lendemain qui chante, et je me suis trompé.
Après avoir été le successeur de Georges Marchais à la tête du Parti communiste français, parti dont il est resté le responsable national pendant 10 ans et qu'il a tenté en vain de réformer, Robert Hue a pris de la distance avec l'engagement classique dans les partis politiques. Aujourd'hui, Robert Hue se bat au sein de l'ONG DREP Afrique pour faire avancer la lutte contre la drépanocytose, une maladie bien peu connue car mise sous cloche par un inconscient racial.
Déterminé à combattre les injustices, Robert Hue fait sienne la phrase de son ami le poète Aimé Césaire qui écrivait
« Devant l'histoire, il faut savoir rester humble, avoir du courage et se remettre en cause. » De l'engagement politique
à l'engagement humanitaire,
Robert Hue
sur Dissonance.
Bonjour Robert Hue.
Bonjour.
Voilà, Robert Hue, vous êtes né en 1946 au sein d'une famille ouvrière. Votre père était ouvrier maçon.
Oui.
Et votre mère ouvrière textile. Vous avez été secrétaire national du Parti communiste français dès 1994, animateur et responsable de ce parti historique pendant 9 ans, un parti duquel vous vous éloignez en 2008. Vous mettez un terme à votre carrière politique parlementaire en 2018 et la même année, vous fondez l'ONG humanitaire DREP Afrique pour lutter contre la drépanocytose, une maladie génétique. Vous êtes issu d'une famille qui a participé à la résistance contre l'occupant nazi et vous êtes aux côtés d'une belle famille marquée par la déportation. Le combat et l'engagement pour une société solidaire et humaniste sont ancrés en vous. Vous rêviez de devenir médecin, vous deviendrez infirmier. Un infirmier qui, de par ses responsabilités politiques, aura des rencontres avec notamment Nelson Mandela, Yasser Arafat, Aimé Césaire et tant d'autres. Des rencontres qui seront déterminantes quant à votre conception actuelle ou passée de l'engagement. Aujourd'hui, nous allons partager une heure avec nos auditrices et auditeurs afin de savoir pourquoi le Robert Hue enfant a choisi de s'engager en politique. Afin de découvrir à travers ce combat consacré à la drépanocytose la teneur de ce nouvel engagement et plus en profondeur au regard de votre parcours, afin de savoir quel message voudriez-vous laisser aux jeunes d'aujourd'hui sur l'engagement au XXIe siècle. Avant de commencer, est-ce que cette présentation vous convient ?
Oui, elle me convient bien. Je vous propose d'arrêter là parce qu'on va prendre un café d'abord. Ma femme arrive avec le café. Super. Mais bon, vous allez pouvoir couper ça. Oui. Votre présentation, on n'y touche plus.
Super. Bonjour. Désolé, je ne me suis pas présenté, Joseph. Merci.
Aujourd'hui, dans Dissonance, il sera question de la drépanocytose,
de Nelson Mandela,
de Martin Luther King,
d'engagement
et de transmission. Mais tout d'abord, quelles sont les racines du militantisme de Robert Hue ?
Je suis tombé dans la marmite, moi, quand j'étais tout petit. Moi, je suis d'une famille ouvrière. Mon père était résistant communiste. Il est d'une famille catholique, d'un père, d'une mère très catholique. ma grand-mère, mon grand-père, très, très syndicaliste, cheminot, membre du Parti Socialiste, et en 1920, il adhère, mon grand-père, au Parti Communiste. Et ensuite, eh bien, mon père, qui est élevé par la mère, mais par le grand-père, par le père aussi, dans une réflexion religieuse, en quelque sorte, mon père est enfant de cœur, mais à un moment donné, mon père est obligé d'aller travailler très jeune, un merveilleux maçon, il taille les pierres, etc., c'est gens qui font des choses exceptionnelles, mais il rencontre le monde ouvrier, il rencontre un monde ouvrier qui est en train de Il a 12 ans quand il va travailler, il est brillant, mais il ne peut pas aller à l'école plus longtemps. Et donc, il rentre, et il devient maçon, et là, il m'expliquait souvent, c'était les années 1929, 30, 25, 30, il était avec des compagnons maçons qui étaient anciens, qui avaient fait la guerre de 14, qui avaient été anéantis par la guerre, Et en même temps, commence à naître ce qui va conduire au Front populaire, un mouvement qui est ascendant. Donc il franchit l'étape, il rentre d'abord à ce qu'on appelle le Secours Rouge, c'est l'équivalent du Secours populaire maintenant, puis ensuite il adhère à la CGTU et il adhère au Parti communiste. Donc mon père, voilà son cheminement. Il arrive la guerre. Il est arrêté parce que en septembre 40, l'Union soviétique entre en guerre contre l'Allemagne, il est arrêté pour propagande communiste. Pour tous ceux qui font l'histoire en disant le Parti communiste a attendu que l'Union soviétique soit en guerre contre les Allemands pour rentrer en résistance, non, mon père il passe en septembre 40 devant les tribunaux allemands à Versailles. Et donc, il s'en sort, il s'évade plutôt, et donc il rentre dans la résistance, etc. Voilà. Je nais en 46 après la guerre. Ma première jeunesse, même pas jeunesse, mon enfance, elle est dans la guerre froide. Moi, je suis dans une famille communiste. Moi, j'ai vu mon père pleurer deux fois dans la vie. Quand ma grand-mère est décédée, et quand Staline est mort. Donc, voilà, c'était en 53, donc, voilà. Ensuite, les 30 Glorieuses arrivent, il y a des mouvements émancipateurs, il y a les guerres coloniales, mon père est très engagé pour la paix en Algérie, avec le Parti communiste, avec d'autres forces, j'ai un frère aîné qui, lui, est appelé en Algérie. Bon, donc je suis élevé dans ce climat, et en 50... je me souviens du référendum, y compris de 58, où mon père colle les affiches pour le non à l'époque, et je suis avec lui, je suis très jeune, puisque je suis né en 46. Je suis engagé dans le mouvement, à 16 ans, 15-16 ans, je vais m'engager plus, l'élément essentiel, c'est effectivement la manif de Charonne. Je suis à la manif de Charonne, c'est ma première manifestation, j'ai 16 ans, je me souviens, c'est mon premier coup de matraque, je me souviens de cette manifestation. Et quand je reviens de la manifestation le soir, ma mère, qui a entendu sur les radios, moi j'habite la banlieue parisienne, elle a entendu sur les radios qu'il y avait une manifestation, qu'il y avait même des morts, elle était affolée, mais je reviens, je prends le train à Saint-Lazare, je reviens chez moi, je rentre, et le lendemain matin, je suis au collège, j'adhère aux jeunesses communistes, parce que je me dis...
Ah, ça a été aussitôt.
Ah, aussitôt, oui. Alors bon, j'étais d'une famille communiste, mais aussitôt. Ensuite mon engagement des jeunesses communistes va être on m'a souvent interrogé là-dessus je suis à la fois très engagé le dimanche matin je vais diffuser l'humanité Mais le soir du vendredi, je vais au golfe de Rouault faire du rock'n'roll.
Voilà.
Et ça ne gêne pas mes parents communistes que je sois un peu fanat de la musique américaine, du rock'n'roll. Donc, voilà. Mais ça, c'est profondément quelque chose qui traduit l'évolution des populations à l'époque et des jeunes, de la jeunesse. Moi, je suis très attaché. Je rencontre mes amis à l'époque au golf de Rouault. Il y en a un qui, je vous en parlais, Claude Moine, qui devient Eddie Mitchell. Mais c'est vraiment des amis. Après, je les ai retrouvés. Eddie Mitchell, d'ailleurs, quand je l'ai fait venir à la fête de l'humanité. Bon, voilà. Et mon engagement. Alors, si vous voulez, c'est ça. Je trouve que moi, la formation de mon évolution militante, moi qui suis le milieu populaire, je ne suis pas universitaire, je continue, je suis bon. Comment je me forme? Eh bien, c'était cette association où il y a à la fois le mouvement social. Vous voyez, je suis attaché au mouvement social. On sent mûrir mai 68. Moi, j'ai vécu de l'intérieur le mouvement. Ça n'a pas été spontané, 68, pour des gens comme moi qui n'étaient pas étudiants. Hein. Le mouvement, il est dans sa profondeur. En 66-67, je fais de grandes manifestations à Paris pour la paix au Vietnam. Et en même temps, nous sommes dans une période où des gens comme moi qui sont qui ont 18 ans, 20, 19 ans, se sentent mutilés de ne pas bénéficier de la formation intellectuelle qu'ont ces étudiants qui sont tout à fait intéressants et que par ailleurs dont je combats parfois les dérives gauchistes, mais j'ai besoin de me former. Et là, le Parti communiste à l'époque, ce qui n'est plus le cas maintenant malheureusement, conduit des gens comme moi à une formation. Je fais l'université du Parti communiste, qui est une université où toutes les semaines, université ouvrière, que Politzer avait créée avant, dans les années 30 d'ailleurs, avant d'être assassiné par les nazis, ce prof de philosophie. Et donc, je participe à ces soirées avec ma femme. On va à l'université à Paris où nous avons des profs, des références comme Althusser, comme d'autres. Vous voyez, donc on se forme et de gens comme moi qui sont issus du peuple, des milieux populaires, bientôt les conduiront à prendre des responsabilités politiques, à en avoir dans le Parti communiste, à se retrouver à être dans une situation d'homme d'État. Donc, je dis ça modestement, hein, parce que j'ai refusé d'être ministre. Donc, voilà. Looks like I'll have to set you all alone. I'm blue. Do what I do. Blue as I can be. Do what I do. Well, tonight is the plummet, everybody's got a date but me. Well, she said she'd be my baby, she said that she'd be mine. We had a date but it's too late and I'm with you behind. I'm blue, blue as I can be. Yeah. Well, tonight is the plummet, everybody's got a date but me. Oh, Jerry.
De l'engagement politique
à l'engagement humanitaire,
Robert U.
sur Dissonance.
Quand on a quelqu'un comme moi qui a maintenant un certain âge, il y en a beaucoup à dire, mais bon, là, ça me convient bien. Et surtout, la façon dont vous passez de mon engagement politique à un autre type d'engagement qui, pour moi, est politique aussi, mais qui est beaucoup plus humanitaire.
Alors justement, on va en parler, parce que de la politique politicienne, Robert U, et de cette politique avec ses jeux d'appareils, vous passez à l'action concrète en créant en 2018 une ONG, DREP Afrique. Pourquoi ?
Ben d'abord parce que l'engagement ne doit jamais cesser. La pire des choses quand on est engagé dans la vie, j'étais engagé politiquement depuis très jeune, jusqu'à mes responsabilités nationales au Parti communiste, puis ensuite mes mandats de parlementaire, et puis à un moment donné, quand vous décidez, moi j'ai décidé de mettre un terme à ma vie élective, hein, j'ai été maire pendant 32 ans, ensuite j'ai été député, sénateur, j'ai occupé beaucoup de mandats de la République, mais à 70 ans, j'ai dit, il faut passer la main, il faut arrêter. Et donc j'ai mis un terme à mon mandat de sénateur. Mais la pire des choses, quand on a été très engagé, c'est de rompre avec l'engagement. Parce que ça voudrait dire que l'engagement, il ne peut être que dans une sorte de politique politicienne. Ce n'était pas le cas pour moi. C'est un engagement très, très profond sur des idées, sur une pensée. Mais en même temps, c'est terrible d'arrêter. Il ne faut pas arrêter. On doit continuer. J'avais rencontré Madame de Gaulle, donc Geneviève, Antonios de Gaulle, et je l'ai rencontré en tête à tête, c'était dans les années 95, et alors qu'elle était, s'occupait d'athée des quarts mondes, etc., cette résistante extraordinaire, et je lui ai dit, mais à ce âge-là, moi j'étais en pleine activité à la direction du Parti communiste, et je lui ai dit, mais à votre âge, vous continuez de mener un combat comme ça, elle avait l'âge que j'ai aujourd'hui, et elle m'a dit, mais vous savez, l'engagement, il ne part que quand on meurt. Et je trouve que cette phrase était extraordinaire, cette résistante, cette déportée qui disait qu'il avait un regard sur la vie exceptionnel. Eh bien, ça m'a toujours inspiré. Je l'ai écrit dans un livre après, quand je parlais de l'engagement, ça m'avait frappé, elle m'avait vraiment beaucoup impressionné. Et j'ai mis en concordance mes actes avec cette réflexion. Quand j'ai cessé d'être sénateur, donc en 2017, je me suis dit, je m'engage dans autre chose, mais toujours avec au cœur l'humain. Hein, c'est-à-dire, parce que la pire des choses, c'est que la politique, on s'y engage pour les postes, c'est ce qui est en train de tuer la politique aujourd'hui, à bien des égards.
Pour le pouvoir aussi, peut-être. Hein,
pardon ?
Pour le pouvoir aussi, on s'y engage.
Ah ben pour le pouvoir, oui. La recherche du pouvoir, c'est éternel. Mais, en même temps, je pense que il y a d'autres dimensions à l'engagement et qu'il ne doit jamais cesser, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est ma première réflexion sur l'engagement. L'autre réflexion, c'est Nelson Mandela. J'ai bien connu Nelson Mandela. Bon, ça peut paraître un peu grandiloquent, mais c'est la réalité. J'étais engagé, comme beaucoup de communistes, dans la lutte contre l'apartheid bien plus jeune. Et quand Mandela est sorti du bagne et qu'il a, est devenu président de la République d'Afrique du Sud, dans les conditions que l'on sait, exceptionnelles, il m'a invité à son investiture, j'y suis allé à Pretoria, et je l'ai revu après à plusieurs reprises, mais tout ça pour vous dire que Mandela, dans les discussions, j'ai eu un tête-à-tête avec lui, notamment, il avait souhaité, quand il est passé à Paris, c'était en juillet 96, je m'en rappelle tout à fait, et je l'ai interrogé sur beaucoup de choses, naturellement, sur lui, son engagement, comment, etc. Allait-il rester longtemps en poste à la direction de l'Afrique du Sud, comme président? Il m'avait dit non, je mettrai un terme à mon mandat dès 2000, ce qu'il a fait. Et après, je m'engagerai parce qu'il y a des causes, etc. Et c'est là qu'il m'a parlé de ce qu'il voulait faire à l'époque pour le sida. Il a un fils qui est mort du sida. Et donc, il y avait la trithérapie qui existait, mais qui n'était pas abordable pour les Africains. Et ça a été toute sa campagne, une fois qu'il était pu président. C'est exceptionnel. Et moi, ça m'a beaucoup inspiré quand j'ai mis un terme à mon mandat de sénateur, à ma petite échelle. J'ai dit, je vais m'engager pour une cause humanitaire comme ça. C'est ce que j'ai fait.
Coucou Brut, moi c'est Fanny, j'ai 38 ans. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de mon quotidien avec la drépanocytose. Je suis née au Congo. On a découvert ma maladie à l'âge de 9 mois. J'ai revenu d'un voyage avec ma mère. Donc j'ai fait une crise. On m'a ramenée à l'hôpital. Et de là, mes parents ont découvert que j'avais la drépanocytose. drépanocytose.
Qu'est-ce que c'est la drépanocytose ? C'est une mutation de l'hémoglobine du sang qui fait que le globule rouge se recroqueville et durcit dans le transfert de l'oxygène vers les organes périphériques et qui se met à bloquer progressivement les organes essentiels du corps humain jusqu'à, alors d'abord ça entraîne des anémies considérables et puis même des destructions de parties entières, des articulations, des os. Enfin, c'est une maladie qui est épouvantable. Tous les chercheurs disent que c'est la maladie la plus douloureuse qui existe au moment où on a ce qu'on appelle des phases vaso-occlusives, c'est-à-dire que les vaisseaux se bouchent à cause de la malformation de l'hématie, du globule rouge, eh bien ça entraîne des douleurs considérables.
Et quel a été votre premier contact avec la drépanocytose ?
Bon, mon premier contact, vous avez évoqué dans votre tout à l'heure question au départ, vous avez évoqué que j'étais infirmier, etc. Mais bon, faut dire que à la fois dans le monde médical en France, même encore en ce moment, la drépanocytose, cette maladie, n'a pas la place qu'elle devrait avoir. C'est la première maladie génétique au monde, on y reviendra certainement. Mais j'ai été frappé. On vient d'évoquer deux choses qui m'ont conduit à ce que je fais aujourd'hui. On vient d'évoquer l'Afrique avec Mandela et cet immense continent, ce qu'il faut faire pour, vis-à-vis de ce continent aujourd'hui. Et puis, on a évoqué la maladie, la drépanocytose. En fait, j'ai perdu une petite nièce à qui j'ai dédié d'ailleurs le livre que j'ai écrit sur la drépanocytose. Elle avait 12 ans, elle était exceptionnelle. Elle est morte d'une maladie génétique, la mucoviscidose, qui est pourtant, c'est une maladie gravissime, sur laquelle on progresse, mais qui est moins importante au niveau des gens touchés dans le monde que la drépanocytose. Or, on connaît la mucoviscidose, mais on ne connaît pas la drépanocytose. Donc j'ai perdu cette petite nièce, et je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Et je m'étais dit, si un jour je ne suis plus engagé dans d'autres activités, je me battrais pour faire reculer les maladies génétiques. Et c'est là qu'ensuite j'ai découvert effectivement plus encore la drépanocytose et que j'ai vu que c'était, au-delà d'une maladie qui frappe terriblement et principalement l'Afrique, avec des millions de gens concernés, 15 millions de drépanocytaires sévères en Afrique, avec 200 000 morts par an, enfin on y reviendra peut-être, mais j'ai décidé donc là de me consacrer à cette maladie et à tenter à mon niveau à la faire sortir de l'oubli. Mais en même temps, je ne voulais pas le faire en France. En France, il y a des drépanocytaires, hein, puisque en France, cette maladie, elle touche principalement les gens issus d'Afrique, des territoires d'outre-mer, mais elle est la première maladie génétique. Il y a sept fois plus de drépanocytaires en France qu'il y a de malades de la mucoviscidose. Or, la mucoviscidose, tout le monde la connaît en France. Pas l'autre maladie. Et il y a une connotation un peu où l'inconscient racial subsiste, c'est-à-dire c'est une maladie des Noirs, ce qui n'est pas une maladie des Noirs. C'est une maladie génétique et c'est pas une question de couleur de peau, c'est davantage une question d'implantation en fonction d'un climat tropical ou pas. Mais bon, il est clair que donc j'ai décidé dans le prolongement, vous voyez, de cette réflexion, ma réflexion sur l'Afrique, on pourra en reparler, j'ai un regard sur l'Afrique qui me semble aujourd'hui essentiel pour moi, et peut-être à prendre en compte, et puis cette pathologie, hein. Moi, cette pathologie qui dépasse le caractère biologique, c'est un vrai problème de société. Bon, la drépanocytose, c'est une maladie... J'ai dit, c'est la première maladie génétique au monde. Et il y a des porteurs sains de la maladie et des porteurs beaucoup plus sévères, et là qui ont vraiment des conséquences essentielles sur la vie des gens, au point qu'elle est une des maladies dont on meurt le plus en Afrique et à bien des égards. Hein. On meurt plus de la drépanocytose en Afrique que l'on ne meurt du sida, par exemple. Hein. Et maintenant qu'on est en train d'avancer sur un vaccin pour le paludisme qui est la première cause de mortalité en Afrique, eh bien, va passer au second plan derrière la drépanocytose, parce que cette mortalité diminuera pour le paludisme, alors qu'elle reste cette mortalité dramatique pour la drépanocytose. Mais donc, c'est une maladie génétique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle est victime de ce caractère génétique, parce que elle n'est pas contagieuse. C'est-à-dire que le coronavirus, quand il apparaît en Occident, il y a une telle peur de sa contagion que le monde entier est vent debout pour y résister, ce qui était bien. Mais en même temps, il y a eu en Afrique moins de morts du coronavirus qu'il y en a de la drépanocytose. Et pourtant, on en parle beaucoup moins et on n'en a pas fait état au moment où il y avait cette poussée de cette maladie du coronavirus. Non, le problème, c'est que parce qu'elle est une maladie héréditaire, qu'elle ne se transmet pas en dehors du caractère héréditaire, eh bien, elle fait pas peur en Occident. Donc, on oublie cette maladie. On oublie, et le cœur de ma démarche est à la fois humaniste, c'est-à-dire on ne peut pas ne pas, comment dirais-je, s'insurger, se révolter devant une maladie qui tue autant, notamment des enfants, sans la prendre en compte, etc. Mais en même temps, il y a la nécessité de resituer les choses et de dire que c'est parce qu'elle touche à 80% l'Afrique que peut-être on s'en occupe moins. Loin de moi l'idée d'être dans une sorte de racialité un peu élémentaire et bâtarde. Non, là il y a un vrai problème. Dans mon livre, j'explique que je pense qu'il y a un inconscient racial sur la drépanocytose. Et que si cette maladie elle était contagieuse, on courrait tous les laboratoires en Occident et on y mettrait les moyens. Or, le Fonds mondial actuellement, qui est un fonds mondial sur les maladies les plus importantes dans le monde, pour la tuberculose, le paludisme, et donc il y a là une différence, c'est qu'on oublie la drépanocytose, elle n'est pas dedans.
J'ai lu que Martin Luther King et Malcolm X, dans les années 60, l'avaient inscrit dans leur combat pour les droits civiques aussi.
Oui, parce que ça a été, notamment pour Martin Luther King et Malcolm X, naturellement. Mais Malcolm X, il a été assassiné alors qu'il y avait un développement du combat contre cette maladie comme porteur d'injustice sociale. Et Martin Luther King a largement couvert ensuite les choses. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est pourquoi Martin Luther King et Malcolm X se sont intéressés à la drépanocytose, au-delà du fait qu'elle touchait principalement les Noirs américains. Quand Martin Luther King, qui a beaucoup plus écrit et fait que Malcolm X, qui n'a pas eu le temps de faire, a dit les choses, le génie de Malcolm X pour faire connaître la drépanocytose, ça a été de l'intégrer au combat pour les droits des Noirs américains, les droits civiques. Et en fait, en montrant que la ségrégation, l'injustice qu'il y avait par rapport à cette maladie qui touchait principalement la communauté noire américaine, était issue de ce qu'avaient été les traites nègres, je mets des guillemets à nègres, vous l'entendez, mais c'est comme ça qu'il s'était énoncé, venant d'Afrique. Parce que, en fait, la drépanocytose, elle a 8000 ans d'existence. On a retrouvé là des génomes 8000 ans. Et depuis, à partir du 16e, 17e, 18e siècle, l'arrivée des esclaves d'Afrique vers le Brésil, les Antilles, les États-Unis ont entraîné avec eux l'arrivée de la drépanocytose. Mais donc, c'est là que Martin Luther King, dans son combat pour les droits des Africains, des Noirs américains, a compris qu'il fallait se battre pour faire reculer la drépanocytose aux États-Unis. Dans le combat qu'il avait amené. Et d'ailleurs, à l'époque, il a mené un combat tellement fort que Nixon, qui était candidat, il n'était pas encore président des États-Unis. Martin Luther King avait réussi, juste avant d'être assassiné, à rencontrer Nixon, à exiger de lui qu'il prenne en compte, si jamais il était président des États-Unis, la drépanocytose. Et bon, Nixon n'est pas ma tasse de thé politique, vous en doutez un peu, mais il a tenu ses engagements, Nixon. Ce qui fait que, à partir des années 67, 68, 69, 70, plutôt 68, 69, 70, il y a eu la prise en compte de la drépanocytose par Nixon, mais après, ça s'est estompé, et bon, actuellement, ça reste encore un élément de discrimination fort aux États-Unis. J'ai rencontré un certain nombre de grands professeurs d'hématologie américains pour le combat que je mène ici sur la drépanocytose. Eh bien, ils sont en combat permanent. L'équivalent de la mucoviscidose aux États-Unis a 10 fois plus de crédit que la drépanocytose, parce que ce sont les Noirs américains qui l'ont à 90%.
Il y a un volet formation dans DREP Afrique pour que justement on puisse créer ou former des postes d'aide-soignants, de chercheurs.
Alors, moi, DREP Afrique, c'est une ONG que j'ai créée avec le professeur Harley, qui est le grand spécialiste en France et notamment à l'hôpital Pompidou, qui est le spécialiste de la drépanocytose. Quand on a créé l'ONG, moi qui ne suis pas médecin, mais qui sais un peu quand même comment fonctionne une ONG, puisque j'avais une grosse expérience politique, je l'ai mise au profit de la création de cette ONG. Je lui ai dit, d'abord il a composé un conseil scientifique exceptionnel, avec les plus grandes personnalités scientifiques de la drépanocytose, et d'ailleurs avec la volonté, ça j'ai insisté, mais tout le monde était d'accord, d'une sorte de parité, double parité, hein, autant de grands professeurs africains qu'européens, et autant de femmes que d'hommes. Donc on a créé ce conseil scientifique, et moi qui ne suis pas médecin et qui me garderais de donner des leçons de politique à des médecins, moi je suis dans un autre terrain, je lui dis: écoutez, on ne pourra pas couvrir cette maladie sur tous les champs. Donc il faut, moi là c'est mon expérience, déterminer deux grandes questions, deux grands piliers sur lesquels on va pouvoir se battre pour faire avancer en faveur de cette cause au plan international. Ils ont travaillé et ils ont sorti deux choses. Ils m'ont dit, un, il faut qu'on forme des médecins, parce qu'il n'y a pratiquement pas de formation des médecins à la drépanocytose. En tout et pour tout, dans les études médicales en France, qui durent quelques années quand même, hein, on doit consacrer 4-5 heures à la drépanocytose. Et en Afrique, c'est pareil, malgré que la maladie soit majeure, même si elle est quelquefois un petit peu, occultée pour des raisons de tradition. Mais bon, donc, j'ai dit ces deux revendications. Donc, on s'est mis à travailler, à mettre en place une formation en Afrique. Je n'ai pas voulu, moi, personnellement, faire des choses en France. On est structuré en France, mais je connais la vie politique. Et je la vois bien en ce moment, plus que jamais. Je me suis dit, moi qui ai été un responsable politique à un haut niveau en France, candidat à la présidentielle, etc., si je m'occupe d'une maladie comme celle-là en France, on va dire que je veux faire un comeback politique et que une fois de plus je me sers de cette cause humaine pour des visées étroites. Donc j'ai dit non, on fera tout en Afrique. Et donc on a mis en place une formation des médecins, du personnel paramédical en Afrique, dans le cadre d'une convention que j'ai pu faire signer avec l'université Paris Cité, et où on forme deux fois par an à un diplôme universitaire les médecins et le personnel soignant. Il faut déjà être médecin et pour avoir la spécialité. Et nous en formons régulièrement depuis 3 ans maintenant. Nous avons formé 225 personnes, médecins, infirmiers, qui sont maintenant spécialistes de la drépanocytose. Parce que cette maladie, les médecins, y compris africains, surtout africains, et que des Africains naturellement, ils ne connaissent pas cette maladie. Ils la connaissent concrètement parce que elle touche massivement leur population, mais en tant que telle, au plan scientifique, au plan du soin, au plan de la pathologie, elle est ignorée. Donc, on a pris les plus grands spécialistes, près de 50 médecins au total, qui forment chaque année du personnel soignant. Première idée. Deuxième idée, cette maladie, on ne la soigne pas actuellement. Enfin, plutôt, si, on la soigne, mais elle n'est pas, on ne la guérit pas. Alors, les médecins, ces grands spécialistes, le docteur Harley, le professeur Dapa Diallo, ils ont dit, il y a un médicament qui est une molécule qui coûte pas cher du tout, mais qui n'existe pas en Afrique, et qui peut non pas guérir la maladie, mais qui peut soulager les crises et obtenir une plus grande longévité. Mais cette maladie, elle n'existe pas en Afrique. Et pourquoi elle n'existe pas en Afrique? Parce que les grands laboratoires, et je les ai tous rencontrés, internationaux, Novartis, enfin, je ne vais pas les citer, mais en même temps, ils ne veulent pas, il y a un problème de rentabilité, c'est une molécule qui ne vaut pas grand-chose, et s'ils la vendent là-bas, ils ne vont pas gagner grand-chose, donc on laisse tomber, et il n'y a pas, le médicament n'existe pas en Afrique, donc la bataille qu'on a engagée, et qu'on est en train de gagner, puisque je pense que dans les 3 mois qui viennent, on va avoir donc l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament qu'on a créé, qui s'appelle l'hydroxyurée, qui s'appelle Drépaf, de Drépafrique, dont l'ONG est propriétaire, mais qu'elle a donné pour la production à un jeune laboratoire sénégalais, qui va donc sortir au Sénégal cette molécule. En plus, on spécialise les choses en faisant une molécule pour les enfants, parce que c'est difficile de prendre, je ne rentre pas dans le détail, mais la molécule, les adultes, ils avalent des capsules, etc., mais pas les enfants. Donc, on a créé un médicament avec ce laboratoire avec qui on a signé un contrat humanitaire il y a 2 ans. Et nous, l'engagement que nous prenons, c'est qu'on lève des fonds privés en France, ou publics, à hauteur de tranches de 60 000 euros, et à chaque fois, on peut apporter pendant 1 an ce médicament que nous venons de créer pour 1 000 enfants, gratuitement, enfants drépanocytaires. Drépaf, dont nous sommes propriétaires, mais gratuitement, nous, aucun profit, on est propriétaire d'une marque, c'est vraiment un modèle économique inédit. Ouais. Une ONG qui devient propriétaire d'un médicament pour le donner. Vous voyez, Voilà. Donc, c'est les deux éléments sur lesquels, les deux piliers sur lesquels on a travaillé, on travaille, et qui permettent de faire reculer la maladie, certainement, en Afrique. Et c'est essentiel.
Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie. Je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme.
Mandela, c'est très important de bien voir que, pour moi, il est un des éléments qui fonde la pensée politique et mon engagement tel que je vous l'ai décrit. Parce que, moi, bon, j'ai rencontré Mandela d'abord parce que, suite, je vous l'ai dit, au combat qu'on a mené contre l'apartheid, il avait tenu à ce que nous soyons, je sois personnellement, j'étais avec Madame Mitterrand, je sois et Barbara Hendricks, qui est devenue un de mes soutiens à Drepafric.
Oui, j'ai vu sur le site.
Et donc, nous étions, c'était en mai 1994, à Pretoria, sur cette colline de Pretoria, exceptionnelle, où Mandela, avec le reste de la planète, était là en train de prendre sa place de président. Donc, Mandela, c'est une pensée. Hein, et moi, il m'impressionne beaucoup dès le départ, dès les premiers moments de son mandat de président. Par exemple, je me souviens encore, lorsqu'il prend la parole à Pretoria, c'est historiquement phénoménal, et où il est déjà entouré de gens de la diversité politique, religieuse autour de lui, là, qui ont été des combattants de l'apartheid, mais pas seulement. Il est déjà dans... De Klerk n'est pas loin, mais il est déjà dans... une thèse qui me rappellera quand je rencontrerai à Paris, de réconciliation. C'est la réconciliation est pour lui l'élément essentiel des choses. Ce n'est pas le hasard si ça a été la plus belle image où il a réintégré son geôlier dans le mouvement de pouvoir dans lequel il était engagé. Non, je crois que il me marque beaucoup justement par le caractère universel. L'engagement du type humanitaire qui est le mien, un petit niveau, je ne compare à rien, hein, mais cet engagement humanitaire, il a un caractère universel. Je crois que la portée de Mandela, c'est de partir d'une situation politique des plus tendues, des plus brutales, pour aller à l'universel. À nouveau, aristotélicien, vous voyez, il y a cette évolution. Et je pense que Mandela, non seulement il est, je l'ai entendu, il me l'a expliqué, on n'était pas nombreux, hein, j'avais vu, il y avait un traducteur, parce que mon anglais n'est pas bon du tout, et je ne voulais pas rien perdre, et je ne voulais pas qu'il perde quelque chose de ce que je voulais lui dire. Mais c'était, voilà, c'était une discussion approfondie, notamment celle de Paris, là. Et là, elle m'éveille. Après, vous, si vous avez l'occasion, vous lirez tous les discours qu'il prononce sur les questions de santé, par exemple, après l'an 2000, une fois qu'il n'est plus président. Moi, je m'en suis inspiré totalement. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas au hasard de ce combat universel contre le sida. Parce que c'est lui qui mène le grand combat contre le sida en Afrique, on a oublié. En 2000, il dit on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas avoir dans le pays qui est le plus touché par le sida, le continent le plus touché par le sida, la trithérapie qui existe et dont on n'a pas eu l'accès. Sa dimension, elle n'est pas seulement le soin. Elle n'est pas seulement le soin, même si le soin, c'est l'humanité, hein, comme disait mon amie Cynthia. il faut, voilà, moi il m'apporte beaucoup sur ces questions et sur le rapport au militantisme. Quand je rencontre Mandela, en tête à tête, c'était en 96. D'abord, vous voyez, cet homme, il est immense, hein, immense. Quand je l'ai vu, oh là là, j'ai eu à l'esprit, parce que j'avais visité son bagne, parce que j'ai été conseiller spécial de la France en Afrique du Sud, hein, j'avais visité son bagne et il pouvait pas dormir allongé dans sa prison, dans sa prison, c'est trop petit, il a vécu 12 ans là, replié, vous voyez, donc vous voyez ce grand homme. Et la première chose que je lui dis, je vous remercie pour ce que vous faites pour l'humanité. Il ne me laisse pas finir. Il me dit non, c'est moi qui vous remercie pour ce que vous avez fait pour qu'on sorte et que j'ai pu faire ça parce que j'avais cet appui des sensibilités les plus progressistes au monde. Il dit ça dans sa forme à lui. Voilà, donc, et puis après, bon, voilà, c'est l'échange. Et je puise, moi, dans cette démarche, deux idées majeures elle n'est pas très, très loin de ma pensée inconsciente, c'est sur la réconciliation. Moi, quand je prends la direction du Parti communiste, je souhaite que ce parti prenne une place beaucoup plus grande, telle qu'il l'a eu auparavant et autrement, avec une idée de, non pas de réconciliation, mais de mutation, d'ouverture. Vous voyez, c'est le même schéma. Donc je me retrouve tout de suite, lui, avec des dimensions exceptionnelles. Mais donc voilà, cette rencontre a été décisive pour moi. Et donc déterminante. Et puis, bon, sans compter que. Mon évolution politique et ma réflexion sur l'engagement est étroitement liée à ça.
De l'engagement politique
à l'engagement humanitaire,
Robert U.
sur Dissonance.
Au moment où je mets un terme, en quelque sorte, délibéré à mon action politique, je suis confronté à quelque chose qui n'est pas réglé en ce moment, c'est-à-dire la crise de la politique. J'ai écrit un livre, je l'ai écrit en 2012, il sera publié en 2014, « Les partis politiques vont mourir, ils ne le savent pas ». J'ai relu quelques passages il n'y a pas très longtemps, il est d'une pertinence totale. C'est-à-dire que au moment, ça coïncide, mais au moment où moi je mets un terme, c'est nécessaire, j'ai l'âge, j'ai beaucoup donné, mais j'ai toujours été élu directement, c'est-à-dire je n'ai pas été mis en place par une démarche supérieure. Se pose le problème pour moi de la vie politique et de la crise de la politique. Je vais vous dire, je n'ai pas réglé ce problème. Je ne sais pas aujourd'hui encore ce qui va succéder à la forme parti pour la politique, ni même ce que sera la politique à court ou moyen terme. Et je vous dis ça au moment où nous sommes dans une crise jamais inédite en matière de crise politique en France. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas continuer avec ces structures qui, à mon avis, ont été utiles et fabuleuses. Hein, j'évoquais la résistance tout à l'heure, le Parti communiste dans la résistance française, ou même après, dans l'élaboration du programme commun ou d'autres choses, il a été essentiel. Et donc, je ne renie pas ce parti. Hein, ça, jamais. Ce parti, j'ai considéré à juste titre qu'il a été d'une utilité à la société française considérable. Mais aujourd'hui, comme d'autres partis politiques, en tous les cas, sa forme ne convient plus. Les jeunes ne veulent plus s'engager dans ce... Et si vous voulez, moi j'ai été mobilisé, engagé sur la base d'une démarche idéologique profonde, structurée. J'avais des repères, peut-être un peu dogmatiques parfois, pas un peu, quelquefois très dogmatiques, avec lesquels j'ai dû rompre, d'ailleurs progressivement, pour me retrouver dans un réel politique qui n'était plus celui d'une chimère. Donc, voilà. Mais on n'a pas encore apporté cette réponse. Hein. Et on est encore au cœur de la pensée de Gramsci. C'est-à-dire que l'existant n'est pas complètement mort pour laisser la place au nouveau. On est dans cette transition, et Gramsci ajoute, c'est dans ces moments-là que naissent les monstres. Vous voyez ce que je veux dire en ce moment. Donc, voilà. Donc moi, quand je mets un terme à mon activité politique élective, puisque j'étais sénateur, je m'interroge sur l'engagement. Je pense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'engagement est essentiel pour vivre. Je pense que, tant intellectuellement que physiquement, parce que vous me parlez de cette passion, cette niaque, c'est physique, mais cette passion, cet engagement, il est possible que s'il y a un corps... auparavant, je peux épouser un corps de doctrine. Si je n'ai plus ce corps de doctrine, il faut que j'essaie de comprendre ce qui pourra motiver l'avenir de mon engagement. Et il y a 8 jours, mon petit-fils, Sacha, qui est étudiant maintenant à Toulouse, en première année de droit, il m'interroge sur son engagement. Très intéressé, il se passionne pour la politique. Je lui dis, tu sais, je vais te dire quelque chose, si aujourd'hui je devais m'engager quelque part, j'aurais du mal à trouver la voie de l'engagement le plus utile. Et je pense qu'il est à inventer, cet engagement. Et je le pense sincèrement. Mais oui, ben oui, on n'a pas les outils de la transformation sociale du monde en ce moment. Ils ont été, ils sont obsolètes, ou ils ne se sont avérés inefficaces. Hein, moi, j'ai cru au lendemain qui chante, et je me suis trompé. Hein, bon, voilà. Donc, je pense aujourd'hui que l'engagement, il faut voir quel contour il peut prendre. Moi, l'âge que j'ai sur mon expérience, c'est là qu'intervient la drépanocytose, curieusement. C'est que je pense que désormais, les grandes questions sur lesquelles on va entraîner la jeunesse, on va entraîner, n'est pas le mot d'ailleurs, la jeunesse va s'engager, sont des grandes causes humaines. Parce qu'on est rattrapé par des réalités qui dépassent les frontières des structures politiques, on est rattrapé par le défi climatique et le défi sanitaire. Et je pense donc que c'est dans ces grandes causes qu'il conviendra de structurer dans le combat politiquement et institutionnellement. C'est dans ces grandes causes que la fin du siècle d'Azur. On peut rêver à une société meilleure, mais si on est balayé tous les 10 ans par une pandémie, ou si on a des cyclones qui ravagent la planète dans les années qui viennent, les questions politiques seront ces grandes causes. Et c'est sur ces grandes causes qu'il faut s'engager. Et moi, je suis très frustré. Vous voyez ? Moi, quand j'avais son âge, à Sacha, j'étais dans les luttes dont je vous parlais, pour la paix au Vietnam, pour... je manifestais, j'adhérais à la jeunesse. Là, je suis embêté de lui dire les choses. Hein. Il me dit, il y a des syndicats étudiants. J'ai dit, oui, mais bon, je sens que ça manque de maturité, c'est très opportuniste. Quel choix politique puis-je lui proposer aujourd'hui? Je manque de je n'ai pas la réponse. J'ai tellement eu l'habitude qu'il y avait des réponses toutes faites en même temps. mais les partis étaient trop la réponse toute faite parfois. Justement. Et justement, il y avait une sorte de dogmatisme. Et aujourd'hui, je veux pas avoir ce travers. Mais j'ai l'autre travers, c'est que je veux pas le laisser en rade de trouver des réponses. Mais c'est pas à moi de les trouver. Moi, je peux trouver des réponses que j'essaie de vous expliquer sur les grandes causes humaines, etc., auxquelles ils se raccrocheront à leur façon et constitueront la matrice de ce qui peut être l'instrument du combat politique nécessaire. Je ne suis pas de ceux qui disent, je pense que le mot parti est usé, mais il y aura d'autres formes de structuration nécessaires parce que la société, elle ne vit pas en équilibre comme ça. Il faut des institutions, il faut des choses, il faut des rapports humains, il faut... Donc, il y a à inventer. Nous sommes dans une période qui est assez proche de la fin du 18e ou début du 19e, où on a inventé un nouveau type de cheminement humain pour l'émancipation. Mais il n'est pas né. Et là, il faut, à mon avis, intégrer complètement la philosophie d'Aristote, c'est-à-dire qu'il faut partir du détail, c'est-à-dire partir du détail pour aller à l'essentiel concernant les problèmes de la faim dans le monde, etc. Moi, je pense la même chose concernant une pathologie comme celle-là. Il faut partir de la réalité du médicament qu'on apporte aux enfants drépanocytaires pour passer à l'universel. Il faut en permanence passer. Il faut une interaction dialectique en permanence entre le détail, l'élémentaire, la base, le terrain et l'universel.
Agir local, pensée globale.
Vous voulez rajouter... Mais attends, la pensée globale, elle est parfois trop globale.
Vous voulez détailler ?
Non, je pense que la pensée globale, elle peut être efficace, se former, que si elle part d'une réalité concrète qui n'est pas un dogme à nouveau. Hein, mettre du global partout ne règle pas le problème. Il faut se méfier des dogmes. On a été balayé par les dogmes dans ce 20e siècle, et le 21e maintenant d'ailleurs. Donc voilà.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci à Sébastien Nadeau qui a permis cette rencontre.
Vous trouverez sur la page internet de Dissonance un lien qui vous permettra d'en savoir davantage sur l'ONG DREP Afrique.
Salut.
Et fraternité.
4664 was my prison number. 4664 will help her do more.
One more time.
4664 just a number.
It's a what's your number?
Rights issue.
hurt, mister. You do what I say, sir. You just what I mean, sir.
For the sake of Africa and the world, we must act and act now. Using the universal language of music, we can live in a world free of HIV and AIDS. Four double six and four.